l'endroit où ils habitaient en plein cœur de la forêt.
Les femmes ont toujours été priorisées d'une manière ou d'une autre.
Il va falloir qu'on me démontre quels droits les hommes ont que les femmes n'ont pas.
J'étais tellement paralysé comme dans ma tête que comme même juste dire bonjour à une fille, c'était qu'un succès pour moi.
Je savais pas ce que je pouvais faire de plus pour que ça marche. J'avais de la haine pour les femmes.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un court extrait de ce qui sera télédiffusé ce soir à Télé-Québec. C'est un documentaire « Bitch, une incursion dans la manosphère ». Ça a été inspiré par le travail d'un journaliste qu'on va aller joindre à l'instant, les journalistes à l'actualité. Marc-André Sabourin, bonjour.
Bonjour, Éric.
Donc, Marc-André, d'abord, explique-nous un peu là, comment est venue l'idée d'enquêter en profondeur dans l'univers numérique des hommes qui sont en colère contre les femmes?
Mais en fait, c'est l'attaque au camion Bélier à Toronto en 2018 qui m'a mis sur le sujet. Si on se souvient bien, Alec Minassian avait publié une espèce de message Facebook un peu cryptique où il parlait de la rébellion incel. Moi, le mot incel, célibataire involontaire, c'était la première fois que j'entendais ça. Et c'est là que j'ai plongé dans cet univers-là. Les incels, pour les auditeurs, ce sont des hommes qui se croient laids au point de ne pas pouvoir trouver l'amour, au point de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec les femmes. Et certains d'entre eux, dont Alec Minassian, ressentent énormément de haine et de colère envers les femmes. Cela dit, quand j'ai plongé dans le sujet, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas juste les incels qui exprimaient leur opinion, leur colère sur les femmes en ligne. Il y a d'autres communautés d'hommes, certaines beaucoup plus modérées d'ailleurs, c'est important de le dire, qui utilisent le web pour se vider les cœurs en quelque sorte là, sur les femmes, sur le féminisme.
Donc, le phénomène, il était nouveau pour vous, mais ça existait dans l'univers virtuel. Comment, j'essaie juste de comprendre, est-ce que c'est un nouveau phénomène? Est-ce que c'est la montée du féminisme? Il y a eu comme un contrepoids? Ou si c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on n'y a jamais porté attention jusqu'à ce qu'il y ait une tragédie à Toronto?
Mais je pense que ça fait longtemps que ça existe et qu'on s'y est intéressé justement parce qu'il y a eu une tragédie à Toronto. La manosphère, là, puis peut-être prendre le temps de définir ce que c'est la manosphère, ouais. En gros, c'est un ensemble de sites web, de pages Facebook, de chaînes YouTube, de forums où des hommes se retrouvent pour parler de leurs problèmes avec les femmes. La manosphère, ça existe depuis l'époque des blogs, là, fait qu'au milieu des années 2000, mais les communautés ne cessent de grandir depuis parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui les découvrent et il y a de plus en plus d'hommes qui adhèrent à leurs idées. Donc, c'est quand même un phénomène qui est récent en quelque sorte, mais qui est pas si nouveau que ça non plus. Là.
Mais en même temps, ces groupes de discussion-là sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une forme de soupape pour des hommes qui sont en colère, puis ça leur permet dans le fond d'aller déverser ça quelque part, puis de trouver des gens qui vivent un peu la même affaire, puis de mieux se comprendre, puis de mieux se conseiller entre eux? Est-ce que ça a pas aussi un effet positif ou thérapeutique un peu?
Ben oui, ça peut être positif. Je veux dire, il n'y a absolument rien de malsain dans le réflexe de se regrouper avec des personnes qui vivent les mêmes difficultés que nous pour ventiler un peu. Et ça, il y a plusieurs hommes dans le documentaire qui le disent. Et d'ailleurs, il y a rien. C'est très sain de se regrouper, qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes. Il n'y a aucun problème avec ça. Là où ça devient malsain, c'est lorsqu'on tombe dans la haine et la colère envers les femmes. Cela dit, ça peut être aussi une soupape. Si on prend les communautés incels, donc c'est des hommes qui vivent une tristesse incroyable. Imaginez, Éric, c'est comme si vous vous trouvez laid, là, mais une haine de votre physique, puis vous êtes certain que vous trouverez jamais l'amour. On peut imaginer la tristesse que ça peut provoquer, la colère aussi que ça peut provoquer. Et pour ces hommes-là, le fait de pouvoir aller déverser leurs pensées les plus sombres sur le web, ça leur fait du bien. C'est ce qui leur permet jour après jour. Ah ouais. Même des experts que j'ai rencontrés pour le sujet m'ont dit que c'est une bonne chose, en quelque sorte, la manosphère. Là.
Moi, quand je parle à certains de mes amis hétéro-célibataires, il y en a bien qu'à l'époque, là, avec le MeToo, avec tout ce qui se passe, avec le féminisme, ils ont souvent de la difficulté à entrer en relation ou à interagir avec les femmes. Ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent manifester leur intérêt. Il y a ça aussi qui est nouveau, là. La façon de jaser puis de trouver une fille en 2019 est bien différente qu'elle était en 1980, là.
Oui, non, assurément. Puis c'est quelque chose qu'on voit dans la manosphère. D'ailleurs, il y a une communauté de la manosphère, les pick-up artists, qui est dédiée uniquement aux relations hommes-femmes. Donc, ce que les pick-up artists essaient de faire, c'est de donner des conseils de séduction aux hommes qui ont un petit peu de misère, qui savent pas trop comment approcher les femmes. Ce que les pick-up artists affirment, c'est que l'apparence physique, le cash, ça compte pas. La seule chose qui compte, c'est l'attitude. Et n'importe qui peut apprendre à avoir la bonne attitude avec les femmes. Cela dit, même dans le milieu des pick-up artists, justement, tout le mouvement MeToo, toute la nouvelle discussion autour des notions de consentement, ça a provoqué des remous aussi. Il y a certaines femmes, certains hommes aussi, qui reprochent aux pick-up artists de franchir la frontière du consentement, des fois, de s'imposer aux femmes. Mais c'est vrai que MeToo a remis en question la manière... Pas remis en question, mais nous force à réfléchir, nous, les hommes... aux manières dont on interagit avec les femmes. Et c'est une discussion qui se poursuit aussi dans la manosphère.
Tu sais, un gars, il ne sait plus s'il peut dire à sa fille qu'elle est belle. Il y a des gens, ça va jusque-là. Il y a des gens qui ne savent plus comment exprimer un intérêt ou un commentaire positif envers une femme. Ils ont plus de facilité à le faire envers une personne âgée ou envers un homme. C'est souvent ça aussi qui est problématique. Là.
Ouais, ben en fait, puis ça devient un problème. Si on n'ose plus aborder les femmes, ben c'est sûr et certain qu'on va rester célibataire. Donc oui c'est un défi. Oui c'est délicat, mais je pense qu'il y a moyen de le faire de façon saine.
Il y a une autre question que je me demande. Comment ça se fait que Marc-André Sabourin, là, il s'est intéressé à ça, puis là il y a un documentaire ce soir à Télé-Québec là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose qui est relativement présent puis important là pour de temps en temps regarder des sites puis voir des trucs passer sur les réseaux sociaux. Je me demande comment ça se fait qu'il y a aussi peu d'intérêt, particulièrement du monde universitaire. Il n'y a pas plus d'études sur ce phénomène-là, alors qu'on a tellement d'études. Moi, je suis bombardé de demandes là, de gens qui veulent faire des entrevues, que ça soit sur les transgenres, sur les gays, sur les féministes. Ouais, ouais. On en a des tonnes. Mais sur ces phénomènes sociaux-là, sur les hommes de toutes les sortes, là, la manosphère, il n'y a pratiquement pas d'études. Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est pas parce qu'ils sont pas nombreux, là.
Ouais, mais moi c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi quand je me suis penché sur le sujet, quand j'ai cherché des experts à qui parler, des gens vraiment qui s'étaient penchés sur la manosphère, il y en avait très peu, même des gens qui s'étaient penchés uniquement sur certains groupes. Bon, il y en a qui s'étaient penchés sur les masculinistes, mais pour les autres groupes, il y avait somme toute à peu près rien. Ce que les chercheurs m'ont dit que depuis les attentats qui ont été commis, l'attentat qui a été commis en 2018 à Toronto, il y a vraiment un regain d'intérêt de la communauté du milieu académique pour étudier les incels. Mais il y a une femme que j'ai rencontrée pour ce documentaire-là, c'était intéressant, elle a dit, ben oui, c'est une bonne chose qu'il y ait plus de chercheurs qui se penchent sur la question, mais ils se penchent sur la mauvaise question. Ils s'intéressent juste à la violence, ils s'intéressent juste à la radicalisation. Puis oui, c'est un problème qu'il faut essayer de comprendre et d'endiguer, mais elle dit, on oublie de revenir aux racines du problème. Et elle, cette femme-là, à ses yeux, les racines du problème, pour les incels à tout le moins, c'en était un de solitude. Comment ça se fait que des hommes se sentent seuls aujourd'hui? Elle dit, si on réussit à régler ce problème-là, on va régler en amont on va régler du même coup le problème des incels, en fait.
Est-ce que les hommes qui ont été interviewés autant par toi lorsque tu faisais ton enquête que pour le documentaire, est-ce que c'était facile de les convaincre de te parler?
Non, ça a été super difficile. J'ai passé des mois sur ce projet-là. J'ai essuyé beaucoup de refus. Ultimement, ce qui a convaincu les gars de me parler, les hommes de me parler, c'était ma démarche, puis celle du réalisateur, Charles Gervais. Nous, ce qu'on leur disait, ils ont dit, écoutez, on n'est pas là pour vous confronter, on n'est pas là pour vous faire paraître comme un fou. On veut vous comprendre, on veut que vous nous expliquiez qui vous êtes. Pourquoi vous en êtes venu à adopter ces opinions-là? Et c'est ça qui les a convaincus. Il y en a 6 qui ont accepté de témoigner, dont plusieurs à visage découvert devant la caméra. Puis j'invite vraiment les gens à aller voir ça parce que ce sont des témoignages super puissants. Ce sont des discours qu'on n'entend jamais dans les médias. Et ces gars-là le font avec une énorme humilité, une énorme candeur. Dans bien des cas, on ressent aussi toute la souffrance que ces hommes-là ont vécue et qui les ont amenés à adopter ces points de vue-là. On peut évidemment ne pas être d'accord avec eux, et la haine, lorsqu'elle est présente, doit être dénoncée. Mais moi, ce que j'aime comme journaliste, c'est rappeler que même les gens avec qui on n'est pas d'accord sont des êtres humains d'abord et avant tout. Et à partir du moment où on comprend quelqu'un, on comprend comment il en est venu à adopter les idées qu'il a, ben c'est plus facile de dialoguer de façon saine plutôt que de s'écrier des bêtises.
J'ai un auditeur qui m'écrit là, puis il me dit, tu sais, ils vont profiter de ce documentaire-là pour discréditer les gars qui achètent pas le discours féministe. Est-ce que ce gars-là peut être rassuré ou c'est à peu près ça qui va se passer ce soir pour ceux qui vont regarder Télé-Québec à 20h?
Moi, je pense qu'il peut être rassuré. Les femmes autour de moi, y compris des femmes féministes autour de moi qui l'ont vu, ont été ébranlées par le documentaire. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, OK, je comprends un peu mieux leur point de vue. Je comprends un peu mieux pourquoi ils pensent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais encore une fois, il y a une compréhension, puis la compréhension, ça amène le dialogue. Évidemment, un masculiniste, un SL ou un MGTOW ou un pick-up artist qui regarde le documentaire ce soir, il va peut-être être déçu parce qu'il va dire « Ah, oh, ben ok, il montre aussi les gens violents, nanana. » Moi, mon travail de journaliste, c'est pas de montrer juste un côté de la médaille. Dans le documentaire, je pense que le documentaire et le reportage dans l'actualité le montrent bien, on montre qu'il peut y avoir un côté positif à la manosphère et on montre qu'il peut y avoir un côté négatif à la manosphère. On montre les deux. Les hommes qui prennent la parole dans le documentaire le font de façon... Vous allez voir, là, c'est des longs segments. Chaque homme a un bon 5-10 minutes là pour parler. Okay. Ça, à la télé, c'est rare qu'on ait ça. Ouais. Et vraiment, on a fait des montages super fidèles. D'ailleurs, tous les hommes le disent qui sont dans le documentaire. Les segments qui leur sont consacrés sont très fidèles à leurs propos. Et ça, c'est quelque chose dont je suis affaire. Ça a été facile là, de faire un show, de jouer dans le montage pour faire passer ces hommes-là pour des fous, des hommes violents. Mais j'insiste, les hommes auxquels on a parlé sont pas des hommes violents. Ce sont des hommes articulés qui ont des opinions fortes sur les femmes, sur le féminisme, des opinions avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Mais je trouve que ça met vraiment la table pour une bonne discussion après ça.
Marc-André Sabourin, le journaliste qui a inspiré donc ce documentaire qu'on va écouter ce soir à 20h à Télé-Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, Éric.
Au revoir. Donc, un documentaire, Bitch, une incursion dans la manosphère. C'est le documentariste Charles Gervais qui a fait ça. C'est produit par Marie-France Bazot.
Et je vais réagir à ça, moi, après. J'ai pas mal d'affaires à raconter.
On va aller à la pause, puis on écoute Marc au retour.